Salut Marcus.
Bonjour Nicolas.
Donc Marcus Schmitt, tu es musicien ?
Tout à fait, je suis compositeur et producteur et je travaille dans le jeu vidéo.
D'ailleurs, on peut écouter ce que tu fais sur marcus-schmitt-musique avec un c.com.
Voilà, tout à fait. Il y a quelques exemples des projets récents.
C'est intéressant effectivement de parler de musique dans les jeux vidéo. En tout cas, dans le cadre de Rendez-vous Création, on parle souvent de musique, on parle souvent de jeux vidéo. Mais faire la jonction entre les deux, ça va être intéressant. Depuis quand tu exerces ce métier, en fait ?
Ça fait 5-6 ans que j'en vis. Donc, j'ai commencé un tout petit peu avant à travailler à côté, pendant un an, à pratiquer et à me familiariser avec le métier, les sonorités. Et après, j'ai commencé assez vite, en fait.
Et donc, tu travailles en collaboration avec des développeurs de jeux vidéo ?
Tout à fait. Donc, mes clients sont principalement des jeux vidéo, des développeurs de jeux vidéo. Et je travaille aussi avec d'autres compositeurs en collaboration, qui sont eux en Allemagne, que je vois régulièrement.
Par exemple ?
Ils s'appellent Dynamedion et ils sont à Mayence, en Allemagne. Et les développeurs, donc, il y a par exemple Alexis Numérique à Paris, que tu connais aussi, je crois, parce que j'ai vu que tu avais interviewé Eric Viano.
Exactement.
Et il y a aussi, par exemple, Spiders, qui est une nouvelle boîte qui vient de sortir après que Monte Cristo ont arrêté leur activité.
Et alors, les exemples de jeux sur lesquels tu as travaillé ?
Alors, en France, par exemple, donc avec Monte Cristo, on avait fait Silverfall. C'est un jeu de rôle. Et là, en ce moment, on travaille aussi avec la Asobo Studio, qui est à Bordeaux. Alors, dans le passé, il y a, dans les jeux généralement que j'ai fait, il y a par exemple Mortal Kombat 8 que j'ai fait. Nous avons travaillé sur Halo. C'était des petites séries d'animation. Après, nous avons fait des jeux de rôle, les Settlers de Ubisoft, par exemple. On a fait un jeu de rôle qui s'appelle Gothic récemment, qui est très connu en Allemagne. C'était également un jeu de rôle. Et des jeux très divers. En fait, on fait tout type de projets.
Et donc là, on est dans ton studio. Alors, c'est la particularité d'être sur une péniche. Et a priori, on doit être assez loin des gens avec lesquels tu travailles.
On travaille beaucoup avec les serveurs FTP, par email et par téléphone. Et puis, généralement, il y a au moins un rendez-vous où on se voit concrètement, où je viens à Paris ou ailleurs et je vais rencontrer les développeurs pour parler plus précisément de leur projet.
Alors, si on vient un petit peu en arrière, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi en ce qui concerne la musique ?
J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours écrit de la musique. Même au départ, j'étais autodidacte.
Il n'y a pas eu un disque en particulier, par exemple, une fois tu as entendu un tel ou un tel ?
Non, rien de spécial. J'ai toujours été attiré par la musique. C'est plus fort que moi. Je fais de la musique tout le temps, je ne peux pas arrêter. Ça n'a jamais été autrement.
Et tu as commencé par quel instrument, alors ?
J'ai joué de la guitare à l'origine et j'étais autodidacte, donc je n'ai pas vraiment appris la musique quand j'étais petit. Je n'étais pas au conservatoire, donc j'ai commencé très tardivement à étudier sérieusement la musique à partir de 20 ans. Et là, je suis allé à la faculté de musique et là, j'ai appris le contrepoint, l'écriture, etc. Mais au départ, j'étais autodidacte et je jouais surtout pour moi-même et j'écrivais des chansons.
Et tu as continué après au niveau des études musicales ou...
Oui, enfin, j'ai fait des études complètes de musique, en fait. J'ai commencé à 20 ans en France à faire des études de musicologie. Et ben, j'ai poursuivi jusqu'à la fin. J'ai fait un CAPES en musique et j'ai tenté l'agrégation et ça ne me convenait pas d'enseigner. Et j'ai commencé à écrire de la musique professionnellement et ça marche bien mieux.
Tout de suite dans le domaine des jeux vidéo ou pas ?
Oui, tout de suite dans le domaine des jeux vidéo parce que j'ai rencontré au départ donc, mes partenaires en Allemagne assez tôt. Et eux, ils étaient intéressés à avoir quelqu'un en France qui gère un petit peu leurs affaires sur place. C'était l'idée du départ. Donc très vite, j'ai commencé à travailler professionnellement avec eux. Et du coup, eux, ils sont spécialisés en jeux vidéo, de manière générale. Et donc, dès le départ, j'ai commencé dans les jeux vidéo.
D'accord, donc c'est lié à une rencontre, surtout.
On peut dire ça. Ça aurait pu être autre chose, effectivement. J'aime bien les jeux vidéo, mais j'aime bien aussi les films. J'aime bien... Je suis ouvert à tout, donc...
Tu joues à quoi comme jeu, en général ?
Personnellement, j'aime bien les jeux d'aventure. J'aime bien parce qu'il y a une histoire, parce que c'est tranquille. Malheureusement, j'ai plus énormément de temps pour jouer, maintenant, parce que je dois beaucoup travailler. Et généralement, je joue un petit peu tous les jeux pour simplement savoir qu'est-ce qui se fait, qui fait quoi.
Écouter ce que font tes collègues ?
écouter ce qu'ils font les collègues, connaître les concepts des jeux, des choses comme ça, donc un peu de tout.
Par rapport aux jeux d'aventure, est-ce que tu as en mémoire une référence, un jeu inoubliable?
Il y en a beaucoup. J'aime bien les anciens LucasArts, des choses comme ça.
Ça peut-être Loom, alors.
Loom, par exemple, qui était fantastique pour la musique et le côté très poétique de l'histoire. Ça, c'est effectivement un jeu qui me plaît beaucoup, par exemple.
Alors là, on voit autour de nous tout un tas d'instruments. Tu disais au départ que tu avais commencé avec la guitare. Hein. À quel rythme, après, tu es passé d'un instrument à un autre et comment ça s'est passé?
Je suis passé de la guitare au violon pour me familiariser plus avec les sons classiques, les stylistiques classiques. Et c'est un peu la même chose, sauf qu'on frotte et bon, bah, c'est un peu le même type d'instrument. Ça, c'est mon violon, c'est mon instrument principal, on peut dire, le violon. Après, en fait, c'était pour très simplement, pour des raisons de pratique, j'ai appris le piano pour pouvoir lire mieux les partitions, que j'ai appris avec ça l'orgue, donc un petit peu le clavecin. Après, pour le collège, j'ai appris la flûte à bec qui m'a amené ultimement à toutes les flûtes ethniques et le doudouk et des choses comme ça que je joue maintenant. C'est exponentiel, c'est-à-dire j'ai commencé un instrument pendant 5-6 ans, le deuxième 2-3 ans, le quatrième un an. Ensuite, de plus en plus vite, j'ai rajouté de plus en plus d'instruments.
Tu as une affection particulière pour un instrument en ce moment?
Oui, là en ce moment j'apprends les frame drums, les percussions dans un cadre où je fais des tutoriels pour les apprendre, pour mieux me familiariser avec les rythmiques ethniques et tribales et des choses comme ça, et j'aime bien ça. Pour son son brut et son son chaud et organique.
Ça voudrait dire que quelque part, tu privilégies le fait de jouer toi-même les instruments sur les musiques que tu fournis finalement pour les jeux?
Alors moi, j'ai fait l'expérience que le meilleur résultat est un mélange des deux. Que ce n'est pas idéal de tout faire avec l'ordinateur et que ce n'est pas idéal non plus de tout jouer soi-même parce que je ne suis quand même pas un joueur professionnel dans tous ces domaines-là. Donc quand on mélange les deux, on a d'un côté le côté son très perfectionné des librairies, et le côté vivant, le côté un peu sale, imparfait de la vraie musique qui est jouée. Et les deux se mélangent très très bien.
Et est-ce que tu as des souvenirs particuliers des premières musiques que tu as fait pour des jeux vidéo?
Oui, j'ai fait par exemple un jeu qui a gagné la meilleure bande son du premier coup de l'année en Allemagne. Et c'était justement un jeu d'aventure et c'était Ankh. Je ne sais pas si tu connais, c'est un jeu qui joue en ancienne Égypte. C'est un peu à la Monty Python, donc c'est vraiment pour rigoler. Et c'est un mélange un peu bizarre de musique épique et rigolote. Et effectivement, ça m'a beaucoup plu. Et tout de suite, je me suis familiarisé avec les avantages du métier, en fait.
Alors, on va passer à la façon dont tu travailles maintenant. Avant d'aborder les différentes étapes, on va se demander déjà avec qui tu travailles. On l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Donc, en gros, l'équipe, le fait que tu travailles à distance, ça doit être aussi un petit peu particulier.
Alors, par rapport aux développeurs, généralement, il y a un directeur artistique qui, lui, a une vision globale du projet et qui connaît très bien donc, les domaines artistiques. Que ça, il n'est pas juste sur son domaine, mais il a une vue globale de l'art graphique, de la musique. C'est quelqu'un moi, généralement très, très cultivé. Et lui, il va être le contact premier pour nous, pour moi, et nous guider pour trouver le bon style qui correspond bien au projet.
Donc ça, c'est du côté de la gestion du projet.
Voilà, donc ça, c'est côté développeur. Et moi, après, avec l'équipe, donc quand je travaille en équipe, c'est moi qui fais la gestion du projet. Et j'essaye de faire la communication entre les développeurs et les compositeurs qui travaillent directement sur le projet. Donc ça, c'est une vraie difficulté. un nid de problèmes. À bien faire la communication entre les deux, c'est très difficile de faire passer vraiment les intentions des développeurs à une tierce personne. C'est pourquoi la meilleure situation de travailler directement avec les développeurs.
C'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des réunions où tout le monde est présent, se parler directement, non ?
Non, donc les gens en Allemagne, ils viennent pas en France, donc eux, ils sont d'accord. En Allemagne. Et c'est-à-dire en interne avec l'Allemagne, on peut discuter par téléphone, mais généralement, j'essaie de faire des emails bien construits, très clairs, très simples, pour ce que le développeur souhaite avoir. Et moi, j'ai généralement un rendez-vous avec le développeur, et après, on continue à discuter soit au téléphone, soit par email.
Donc, tu fais déjà sûrement une traduction du français en allemand.
Oui.
Et puis en plus, tu dois sûrement reformuler pour que ça soit compris le plus simplement possible.
Oui. Et bon, bah, ça, c'est les deux points vraiment difficiles du métier. C'est-à-dire, un, comprendre vraiment ce que les développeurs veulent dire. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'on a différents termes. Il faut bien se familiariser avec le projet, rentrer dedans au maximum. Et c'est pour ça que souvent, je choisis aussi des exemples supplémentaires. Donc, je vais me dire, ah, j'ai compris ce qu'il voulait là. Je vais faire, pour être sûr, je vais faire un choix de musique. Donc, je choisis des musiques et je fais écouter. Et là, il peut s'avérer que non, c'était pas du tout ça qu'il voulait dire. Mmh. Et là, c'est bien pour partir sur autre chose qu'on a fait le test.
Les personnes avec qui tu travailles en Allemagne, est-ce qu'elles ont des spécialités ?
Tout à fait. Donc, effectivement, on travaille globalement de la manière à ce que... Il y a au moins un spécialiste dans chaque projet, c'est-à-dire si par exemple, je ne sais pas, c'est peut-être une musique rock, une musique rock, mais moderne, vraiment moderne, avec un gros son de guitare, etc. Pour ça, on a effectivement des gens qui jouent de la guitare dans des groupes, qui sont en tournée, qui ont, je ne sais pas, 5-6 guitares chez eux, qui jouent ça du matin au soir. Et effectivement, si je pense que c'est la bonne personne pour le projet, je le mets sur le projet. Il va se faire ça mieux que quelqu'un qui va peut-être juste le faire une fois par an. Donc, effectivement, chacun a sa spécialité, mais on est quand même assez polyvalent globalement. Donc, chacun peut quand même faire une grande quantité de styles.
Et au niveau des méthodes de travail, souvent on oppose développement en cascade, développement itératif. Est-ce que toi, tu as affaire à cette diversité au niveau des projets sur lesquels tu travailles? Et si oui, est-ce que tu changes ta façon de travailler en fonction du type de projet?
De mon expérience, donc généralement les développeurs ils savent assez bien où ils vont, ils connaissent bien leurs besoins du départ. Donc généralement, j'étais pas encore confronté à un projet qui vraiment évolue de manière très très inattendue. Mais il est clair que nous nous adaptons tout le long du projet au développement et aussi aux nouvelles idées ou à différentes situations, c'est assez habituel, oui.
Alors, on va passer à la phase de conception dans le développement d'un jeu vidéo. Est-ce que, finalement, tu peux être contacté dès la phase de conception du jeu ? Est-ce que, dès le début, où on a l'idée, où on développe le concept, on fait les études, etc., est-ce que les développeurs, finalement, te disent « on est en train de penser à un jeu, est-ce que tu pourrais penser à une musique ?» Ou est-ce que ça vient plus tard ?
Ça vient généralement plus tard. À la conception même... Ça ne m'est pas encore arrivé d'être contacté. Généralement, il y a au moins déjà quelques artworks. Il y a donc, je ne sais pas si je peux utiliser un nom anglais. Et il y a quelques... il y a le concept du gameplay qui est là, qui est développé. Il y a des idées sur la musique. Il y a une orientation globale. Et à ce moment-là, généralement, il y a aussi un éditeur la plupart du temps. Donc, le projet est déjà en route. Il y a l'équipe de développement. Donc, à ce moment-là, on intervient. Idéalement. Et de là, on part sur les concepts de la musique.
Donc finalement, ce n'est pas non plus en phase de pré-production. Si par exemple, il y a un prototype à faire, on ne va pas te demander de faire une musique pour un prototype.
Si, nous avons fait ça. Pour le prototype, effectivement, dans le but d'un démarchage auprès d'un éditeur.
Mmh. Ah oui.
Et bah, tout à fait, c'est tout à fait habituel qu'on nous demande des musiques qui accompagnent la démo qui va être montrée à l'E3, par exemple. Et le développeur aimerait avoir quand même un thème déjà montré aussi. Ça, c'est quand même rien d'inhabituel. Mais ce sont des... Je ne sais pas si j'appellerais ça un projet. C'est effectivement une préparation à un projet. C'est juste une musique ou une minute, je ne sais pas, deux minutes, des choses comme ça.
Par contre, si c'était un jeu basé sur la musique, un jeu musical, à ce moment-là, la partie musicale serait prise en compte dès le début.
Bien sûr, du coup, c'est vraiment partie intégrante du gameplay.
Alors, le cas général, c'est qu'on te contacte plutôt au début de la phase de production.
Oui.
Au moment où, justement, on commence à travailler sur l'image pour le jeu directement sur le, et aussi sur le son.
Mm-hmm.
Donc, tout à l'heure, on parlait un petit peu de la communication, justement, avec les développeurs pour savoir ce qu'ils veulent. Comment se passe cette communication? Quel type d'échange vous avez? Quelles sont les informations qui permettent d'exprimer la musique, les bruitages, etc.?
Alors là, ça peut varier vraiment beaucoup. Ça dépend de la personnalité du directeur artistique ou la personne qui s'occupe de ça. Et c'est pour nous, le mieux, c'est d'avoir un maximum d'impressions du projet. D'aller dans le studio, de voir les animations, qu'on nous explique les gameplay, qu'on nous explique la philosophie du projet, parce que ça peut varier beaucoup. Et ce n'est pas forcément les choses qu'on voit, l'esprit qui est derrière, la différence d'un projet par rapport aux autres projets du même type sur le marché.
Pour sentir l'ambiance du jeu, en fait.
Voilà, pour vraiment rentrer un maximum dedans, d'oublier tout autour et d'être dans le jeu, d'émerger un maximum. Et moi, j'y vais vraiment ouvert à tout et je laisse le développeur me guider, m'expliquer sa vision. Et je n'y vais pas avec des idées préconçues, donc je suis très ouvert quand j'y vais. Et en sortant, j'espère que d'avoir vraiment une image claire du projet et peut-être déjà quelques idées musicales dans la tête.
Par rapport à la musique en elle-même, comme tu disais, c'était assez varié. Peut-être qu'on te donne le nom d'un style, on te dit on voudrait une musique plutôt rock ou plutôt jazz, etc. Peut-être aussi qu'on te fait écouter des exemples en te disant on voudrait comme ci, on voudrait pas comme ça.
Oui, ça arrive, mais c'est vrai que c'est plutôt rare que les gens arrivent avec une musique.
Ah oui.
C'est généralement moi qui arrive après avec une musique pour dire...
Ah oui, comme tu disais tout à l'heure, oui.
Est-ce qu'on s'est bien compris? Est-ce que c'est bien ça, la musique? Je fais ça pour me rassurer. C'est pas forcément pour copier après le style, mais pour être sûr que j'ai bien compris. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des idées. Des fois, la musique est intimement liée au gameplay. Donc, elle ne peut pas faire n'importe quoi. C'est le cas de la musique interactive. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment suivre des contraintes et vraiment les respecter pour pouvoir... proposer une musique. Finalement, le choix n'est pas forcément infini non plus, je veux dire. Chaque projet nécessite une certaine musique, quand même. On ne peut pas faire un jeu de rôle avec une musique, je ne sais pas, en breakbeat. Enfin, on peut le faire, bien sûr, mais disons que
c'est
en Moyen-Âge.
Avec, oui,
oui, il faut que ça corresponde d'une manière ou d'une autre. C'est quand même un produit et il y a certaines attentes du joueur, du développeur, de l'éditeur, donc on doit respecter ça. Donc, ce n'est pas non plus comme si on pouvait faire n'importe quoi, comme si on était complètement libre dans le choix de la musique.
Et alors là, tu parlais de musique interactive, donc une musique qui va évoluer en fonction de ce que fait le joueur directement, de ses actions dans le jeu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en plus des éléments, par exemple sur le style de la musique, on va te donner des indications directement sur le gameplay et sur les liens qu'il doit y avoir entre le gameplay et la musique.
Oui. Alors, j'ai deux exemples... précise. Donc, le premier est de Silverfall dont j'ai parlé tout à l'heure, où le développeur avait l'idée de la musique interactive. Donc, c'est très simple. On se promène dans un marécage, par exemple, qui est peuplé de morts vivants. Et ils en parlent tout le temps, les morts vivants. Donc, on se promène des fois tranquillement, à voir le paysage, collectionner les objets, les capacités. Et des fois, il y a un ennemi qui arrive. Et à ce moment-là, il ne voulait pas... qu'il y a un changement brusque et que ça y est, blam, la musique combat commence, ouais. Alors que ça dure peut-être que 5 secondes et on a tué l'ennemi et on revient à la musique d'avant. Ils ont trouvé ça trop lourd. Et du coup, nous, on a simplement créé deux pistes. Une piste d'une musique assez calme et une deuxième version de la même musique qui est parfaitement parallèle, qui, avec des percussions, des éléments plus agressifs, des versions... des éléments plus rythmiques,
oui.
Alors que l'autre piste était plutôt comme une plage.
Mmh.
Et donc, du coup, quand un ennemi vient, très discrètement, les percussions rentrent, la musique devient légèrement plus animée, plus agressive. Et quand l'ennemi est mort, bah, on revient très discrètement à quelque chose de plus calme et ça fonctionne très bien, par exemple.
Ce genre de transition, par exemple, est-ce que tu regardes ce qui se fait, par exemple, au cinéma ?
Non, je pense que c'est vraiment très, très particulier au jeu. Parce que au cinéma, c'est vrai que nous avons toujours le même déroulement. Donc forcément, on peut tout faire en interactivité, entre guillemets, parce qu'on peut vraiment exactement suivre ce qui se passe. Alors que ça, c'est vraiment propre au jeu de créer une musique qui est polyvalente, qui marche aussi bien en tant que musique de fond, mais aussi en tant que musique de combat. C'est pas évident et on a cherché un petit peu pour... avoir la bonne solution pour que les deux fonctionnent, parce que c'est 100% parallèle.
Qui est-ce qui gère le côté programmation de ce genre de musique ?
En soi, nous envoyons un sound designer dans l'entreprise qui va programmer ces passages-là. Soit il y a déjà quelqu'un qui s'y connaît un peu en son dans l'entreprise, qui est programmeur aussi, et lui, il fait l'intégration. Donc c'est généralement une autre personne que le compositeur a priori.
Concernant la composition de la musique, tout à l'heure tu disais que tu pouvais vérifier avec des musiques que tu connaissais que ça correspondait effectivement à ce que voulaient les développeurs. Donc à partir de là, tu vas composer réellement une musique originale.
Tout à fait. C'est-à-dire avant, ce que je fais maintenant, je fais toujours une recherche en plus. Je ne vais pas dire « bon, bah, j'ai compris ce qu'il faut, je commence ». J'allume mon ordinateur et je compose direct. Maintenant, je fais toujours une recherche, c'est-à-dire je vais essayer de... Je ne sais pas si ça tourne autour de l'Amérique du Sud, je vais faire une recherche sur la musique populaire de l'Amérique du Sud, ou je ne sais pas, je vais lire un roman qui joue dans le même temps que le projet. Enfin, j'essaie de m'immerser un maximum dans l'esprit et de ne pas me jeter sur le crayon pour écrire quelque chose. Donc généralement, j'ai encore besoin d'un temps de recherche. Et après ça, une petite pause. Ça paraît très long, mais ça peut être juste 2-3 jours. Et après, je commence à écrire, effectivement.
T'écris avec un instrument en main, avec un ordinateur en main, avec un crayon en main?
Ça peut être vraiment très différent. Donc on peut partir, par exemple, d'une idée rythmique, de prendre un instrument rythmique, pourquoi pas, et jouer une rythmique qui va créer la base de la composition. Ça peut être au piano, en cherchant un thème. Ça peut être simplement dans la tête, en essayant d'imaginer le résultat final, à peu près, et après réfléchir comment on peut y parvenir. Ça peut être l'instrument, effectivement, par ordinateur. On peut jouer tous les instruments en direct. Donc si c'est un thème épique, je vais peut-être essayer de l'écrire sur le corps, d'écouter un peu les sonorités de corps pour me donner des idées. C'est très, très varié. Ça peut être un bruit, une sonorité.
Est-ce que ça t'arrive d'écrire les partitions ou alors tu crées la musique directement dans un séquenceur ?
Alors, j'ai créé la musique directement, mais quand des musiciens jouent la musique après, par exemple dans un orchestre, comme on fait régulièrement des productions avec un orchestre, bien sûr, on doit créer toutes les partitions, sachant qu'après, il y a l'orchestrateur qui vient en plus, qui va dire que le bois, là, il ne pourra jamais faire telle ou telle note proprement et il va la mettre à l'octave, par exemple.
Et au niveau des logiciels, tu utilises quoi ?
Moi, je travaille sur Cubase en ce moment. Et j'ai comme sample principal, j'ai Kontakt. Voilà, j'ai 4 ordinateurs qui tournent ensemble et pour accumuler suffisamment de puissance pour faire tourner tout ce petit monde-là.
Tout à l'heure, on disait qu'il y a des instruments que tu joues toi-même, d'autres qui sont joués par des gens qui travaillent avec toi. Et là, tu viens de citer le cas d'un orchestre. Mm-hmm. Il y a aussi le cas des instruments qui sont dans les bibliothèques de son. Mm-hmm. Est-ce qu'on en a oublié ?
Pour résumer très sommairement, on a soit un son orchestral, soit un son avec un groupe, qui s'appelle un groupe rock, un groupe jazz... Et tout le domaine ethnique, donc tout ce qui vient des autres cultures, qui colore très souvent en jeu vidéo les endroits où on se trouve, donc le pays, la culture. Et dernièrement, il y a les synthétiseurs, qui sont un monde à part et qu'on programme ou qu'on utilise pour donner souvent un côté un peu, bien sûr, moderne, science-fiction au jeu. Donc, 4 domaines, en gros, qu'on utilise.
Tout à l'heure, on discutait d'enregistreur. On parlait du fait d'enregistrer des sons par-ci, par-là. À quoi il te sert dans la musique ?
Il y a un certain type de projet qui penche un petit peu vers le côté expérimental. Par exemple, il y a un jeu encore d'aventure qui s'appelle Overclocked, qu'on a fait il y a 2-3 ans, qui avait une démarche très, très expérimentale. Donc ça joue sur une île où il y a un vieux camp militaire où ils font des expérimentations sur le psychisme des gens. Et donc dans ce cadre-là, j'ai fait des recherches sonores, donc j'ai enregistré moi-même beaucoup de sons. Et j'ai créé avec ça des sonorités inhabituelles, des sonorités sales, brutes, qui ne peuvent pas être, qui sont pas vraiment dans une librairie parce que c'est plutôt propre ce qu'on trouve là-dedans. Et donc à ce moment-là, il peut m'arriver de prendre l'enregistreur et de sortir et d'enregistrer, je sais pas, un train ou dans un hall, de taper sur les murs ou que sais-je, tout qui peut faire des bruits intéressants.
Est-ce que tu travailles avec la voix humaine, avec des chanteurs, des chorales ?
Oui, effectivement, on travaille aussi avec des chorales. Ça fait aussi partie du répertoire. Ça peut être des chanteurs solistes, ça peut être des chanteurs, un chœur. On a travaillé avec un chœur radiophonique pour donner un côté vraiment très vivant à la production. Et là, effectivement, c'est un petit peu autre chose. Ça peut être, par exemple, mélanger qu'à une production par ordinateur. C'est-à-dire, on va créer tout l'orchestre avec un synthétiseur, et après, enfin, un synthétiseur entre guillemets, et après, les chants vont être mêlés à ça pour donner le côté vivant et naturel.
Donc, est-ce que pour des chœurs, par exemple, tu écris les partitions aussi
Oui, effectivement, et à ce moment-là, on crée aussi un texte. Enfin, c'est pas obligatoire, on peut faire très bien créer avec des A et des O. Moi, j'aime bien écrire un texte. Donc, généralement, je vais piocher dans la littérature latine, obscure, orthodoxe, quelque chose comme ça, et mettre pas forcément des vrais mots, mais des fois, on peut mélanger les syllabes pour que ça sonne bien. C'est pas forcément un vrai texte, mais personnellement, je trouve que si on a déjà un vrai cœur, c'est plus intéressant d'écrire pour texte, enfin, avec texte.
Juste à l'instant, on parlait donc de bruit que tu pouvais enregistrer. Est-ce que dans les jeux, tu fais aussi les bruitages ?
Non, c'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai commencé à travailler donc, dans une démarche d'équipe. Mmh. Et donc, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ce qui est une bonne solution parce que c'est vraiment un métier à part d'être 100% dans les bruitages, de faire ça matin au soir. Les bruiteurs, ils enregistrent leur propre son, ils vont sortir et créer leur propre arsenal de bruitage. Et c'est des choses qui sont intéressantes quand on a ses propres sons aussi par rapport aux banques.
Mais alors derrière, comment est fait le mixage entre la musique et les bruitages pour que tout s'arrange bien ? Est-ce que du coup, parfois, il y a des échanges entre tes équipes et les équipes de bruiteurs ?
Oui, tout à fait. Notamment dans les cinématiques, les animations qu'ils peuvent avoir dans le jeu. Parce qu'il faut pas que, il faut éviter que les fréquences sont sur le même... dans le même domaine, enfin, je veux dire, quand l'explosion est dans l'aigu, il faut éviter que toute la musique joue dans l'aigu aussi. Mmh. Disons que c'est mieux de mettre, par exemple, des timpanis dans le grave s'il y a quelque chose dans l'aigu, un bruit. Et effectivement, on essaie de s'adapter au maximum à ce niveau-là. Et dans le jeu, c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut être toujours conscient, parce que les jeux, enfin, je veux dire, les bruits n'interviennent pas de manière prévisible dans le jeu. Ils peuvent y avoir à n'importe quel moment dans le jeu un bruit de n'importe quelle fréquence, en fait. Donc, il faut, pour ainsi dire, laisser la place toujours au bruitage quand on fait de la musique. C'est pourquoi une musique trop, trop dense dans un jeu n'est pas forcément une très bonne idée, parce qu'il faut encore laisser la place aux voix, il faut laisser la place au bruitage. Voilà.
Dans ton travail pour la musique, est-ce qu'il y a des phases spécifiques pour le mixage, pour le mastering ?
Nous, en tant que compositeurs de jeux vidéo, on fait tout ça ensemble. C'est-à-dire qu'on combine, pour ainsi dire, quand je travaille sur ma musique, j'essaie déjà de penser au mastering, en fait. Je me pose la question. Idéalement, je ne touche pas trop, en fait, au mastering. C'est-à-dire, si le mix est au rendez-vous, il n'y a pas besoin d'énormément d'adapter. On va peut-être enrichir un petit peu, peut-être monter un tout petit peu les aigus, mais c'est mieux de régler tous les problèmes dans le mix.
Donc, tu ne fais pas appel à des gens qui sont spécialisés en mastering, par exemple ?
Non, il n'y a pas besoin, mais on le fait nous-mêmes. Sauf, bien sûr, pour l'enregistrement d'orchestre. Là, il y a un ingénieur de son qui intervient et qui fait toute la production. Parce que c'est vrai que ça devient beaucoup plus compliqué, bien sûr, s'enregistrer avec peut-être une centaine de microphones, donc une centaine de pistes. Et ça commence vraiment à être très compliqué pour nous.
Au moment où les premières versions sont prêtes, il doit y avoir des échanges entre toi et les développeurs pour leur soumettre peut-être l'équivalent d'une version alpha, l'équivalent d'une version bêta. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a comme ça des échanges de versions préliminaires ?
Oui. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien faire au début d'un projet, c'est de faire juste une petite maquette pour voir à nouveau si on parle de la même chose, une fois que les exemples musicaux correspondent. C'est pour songer un petit peu plus ce que les développeurs recherchent. Donc, je fais, je ne sais pas, une minute peut-être, juste pour montrer une idée. Et ce qui est délicat là-dedans, c'est qu'il ne faut pas que l'idée soit trop peu développée non plus. Il faut que ça soit quand même vraiment présentable. Donc, c'est quasiment fini, mais ce n'est pas très long. Et ça peut déjà...
Donc, ça serait plutôt une version alpha, alors.
Plutôt, oui.
Est-ce que, du coup, ça t'arrive d'en proposer plusieurs parce que tu vois plusieurs directions ou ça paraît impensable à l'échelle de ce genre de projet ?
Bah, rien n'est impensable. Ça peut même être une très bonne idée sur certains projets, effectivement. Si, par exemple, le développeur il a une idée, et moi, je pense que quelque chose d'autre peut être intéressant aussi de faire une proposition. Non, je ne l'ai jamais fait, mais ça me paraît tout à fait faisable.
Et donc, tu dois avoir des retours. Oui, ça correspond à ce qu'on veut. Ah ben, il faudrait corriger ça.
Oui, ça, c'est quelque chose qui est très normal. Il ne faut pas désespérer ou il ne faut pas se mettre en question. Si le développeur dit, même s'il dit, écoute, Marcos, ça, ce n'est pas du tout ce que nous cherchons. Et à ce moment-là, c'est vrai que ce n'est pas la situation optimale, mais il empêche qu'il faut recommencer. Il faut réfléchir à ce qui n'allait pas. Souvent, quand la démarche de la recherche est bien faite, généralement, on arrive très vite à avancer dans le projet. Mais ça peut quand même arriver qu'on est complètement à côté et à ce moment-là, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est quelque chose que tous les compositeurs à tous niveaux sont affrontés à ça, donc ce n'est pas du tout un souci. Après, c'est vraiment, quand on est vraiment à côté, ce qui est plus fréquent, c'est par exemple dire oui, mais je sais pas, les cymbales sont un peu forts, ou j'aime pas le hautbois là, ou j'ai préféré entendre une trompette. Ça, c'est des choses qui sont vraiment assez habituelles aussi.
Est-ce qu'il y a des situations de blocage ? Par exemple, on te demande sans cesse des modifications et tu finis par en avoir marre ?
Oui, c'est déjà arrivé, oui, effectivement. Il y a un moment où ça devient pas meilleur, où c'est un moment. C'est vrai que souvent, les développeurs, ils ont des très bonnes idées et on avance. Et souvent, les idées sont tellement bonnes que moi, je me dis après, effectivement, c'est une bonne idée, ça apporte quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a eu des situations où on revient éternellement dessus avec des choses très subjectives et personnelles. Et à partir, je ne sais pas, du cinquième changement, de la cinquième version, on commence à vraiment fatiguer. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, je donne le morceau à quelqu'un d'autre qui reprend avec une nouvelle énergie, avec tout ce qui était acquis. Et généralement, ça se passe bien, mais il y a un moment où il vaut mieux arrêter parce que le morceau, on peut plus l'améliorer, ça devient une catastrophe. On essaie de le tourner dans tous les sens et il ne marche jamais. Et à ce moment-là, c'est sûr que oui, c'est déjà arrivé.
Au moment où tout le monde est content sur la version, oui, c'est la version finale, tu l'envoies comment
Simplement par un serveur FTP. C'est un serveur, donc généralement les développeurs ils ont un login et ils téléchargent leurs morceaux. Et après, c'est l'ingénieur de son qui l'intègre ou il y a quelqu'un de l'équipe qui l'intègre. Et à ce moment-là, c'est très simple. Des fois, on envoie un DVD, mais c'est plutôt rare.
Ces musiques, elles peuvent concerner la musique du jeu, mais ça peut être aussi la musique des cinématiques, peut-être la musique de l'écran d'accueil. Mm-hmm. Il y a plein de types de musique.
Tout à fait. Donc, je ne sais pas si ça dépasse pas un peu le cadre de l'interview, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de types de musique qu'on trouve quasiment dans tous les jeux et qui ont leurs propres règles. Bon, ça dépend toujours du projet, mais bon, une musique de fond, par exemple, elle doit varier beaucoup sans être trop présent, parce qu'elle doit varier beaucoup parce qu'on écoute en boucle. Si elle se répète à l'intérieur, ça va juste devenir ennuyeux ou fatigant. Alors qu'elle doit être quand même pas trop présente pour qu'on l'oublie un petit peu, parce qu'on fait autre chose. On n'est pas en train d'écouter la musique, on est pour un concert, on fait autre chose. On ne veut pas que la musique attire trop l'attention sur elle. Et ça, c'est dans toutes les musiques de fond, généralement, c'est comme ça. Comme ça, chaque type de musique a ses propres règles. Par exemple, les musiques de combat, bien sûr, on demandera quelque chose de plus rythmique. Ce n'est pas systématique non plus, mais très souvent, on va faire quelque chose de plus rythmique, de plus animé. Et la musique du menu, ça peut pas mal varier. Il y a aussi le thème principal qu'on voit souvent. Il y a les jingles, des petites interventions musicales, simplement... Quand on a réussi quelque chose, il y a une petite musique qui déclenche, donc voilà.
Par contre, les musiques des cinématiques, les musiques des bandes-annonces des jeux, là, j'imagine que ça doit être des musiques qu'on écoute vraiment, du coup.
Ça dépend. Une cinématique où il y a principalement du dialogue, il n'y a pas besoin de se mettre trop en avant non plus. Après, si c'est une grande bataille, c'est sûr que la musique, là, elle peut vraiment se montrer... Par contre, probablement derrière les bruitages, parce que les bruitages, généralement, on les met un peu plus fort que la musique pour qu'on sent plus l'impact. Et là, effectivement, la musique peut être beaucoup plus présente aussi. Les musiques de combat, bien sûr, sont beaucoup plus présentes que les musiques de fond. Mais il faut, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce métier. Il faut être conscient du degré de présence. Ça peut être une musique magnifique, ça peut être très bien orchestré avec des super belles mélodies, mais si c'est gênant en jouant parce qu'on écoute tout le temps la musique, c'est peut-être pas génial et des fois c'est mieux de faire moins. Et quand ça va bien avec le gameplay, c'est la chose la plus importante.
Ce genre de compétences sur les types de musique dont on vient de parler, on imagine que c'est assez transposable dans d'autres domaines où on peut avoir besoin de musique de fond comme ça, de musique éventuellement interactive, avec justement ces différents types de musique. Est-ce que de ton côté, tu as des envies de travailler pour d'autres types d'industries ou...
Je travaille pour d'autres industries, je ne fais pas exclusivement du jeu vidéo, on fait par exemple la musique pour bande-annonce. Alors là, c'est tout le contraire, là, il faut être au maximum présent, la musique doit être tellement présente que quand on est fatigué au bout d'une minute, j'exagère, mais elle doit être vraiment tellement intense, et le plus intense possible, et si possible plus intense que le compositeur d'à côté.
Et là, quand tu dis bande-annonce, c'est bande-annonce de film, de cinéma?
Voilà.
D'accord.
Donc, effectivement, on travaille avec c'est le marché américain où on a fait des bandes annonces hollywoodiennes. Et là, il s'agit vraiment de montrer le plus possible. Alors, ça a le désavantage que ça devient un petit peu uniforme, ce style-là, parce qu'on va avoir toujours le chœur, on va toujours les percussions, toujours les cuivres à fond, toujours les cordes nerveuses. Mais c'est le style qui veut ça. Donc, je travaille dans d'autres domaines et effectivement, c'est passionnant aussi.
Alors, le cinéma et puis peut-être d'autres?
On fait de la musique de licence, donc ça c'est télévision, tout ce qui est... Là on est comme dans les banques, il y a des banques de sons, donc par exemple 10 morceaux c'est la thématique de, je sais pas, du lounge par exemple, et c'est un album qui sort comme ça, c'est le marché de production multimédia, où les gens vont par exemple prendre un morceau et l'intégrer dans leur production et se payer à l'utilisation si on peut.
Là, on parlait du cinéma. Du coup, on peut imaginer aussi que tu puisses travailler sur des musiques de films.
Tout à fait. J'ai ce qu'il faut pour. Ça ne s'est pas encore présenté, malheureusement, parce que je m'intéresse beaucoup aux films. C'est sûr que je ne sais pas très bien comment ça se passe le marché en France, mais je n'ai jamais rencontré quiconque qui serait intéressé par une musique. Et donc, ça ne s'est malheureusement pas encore fait.
D'accord. Reviens sur la version finale. Est-ce que c'est la version finale qui est utilisée pour les bêta-tests des jeux?
Oui. A priori, la musique est finalisée avant.
Ça veut dire que tu peux avoir des retours sur la musique qui viennent des bêta-testeurs?
Non, généralement, non. C'est-à-dire, ils font des retours, mais on ne va pas dire qu'il y a un bêta-testeur qui a dit que la musique, ça ne lui plaisait pas du tout, on va tout changer. Ça, c'est pas encore vu. C'est-à-dire, à un moment, la musique doit être aussi acceptée. On n'a de toute façon pas le temps de tout refaire tout à la fin du projet. Donc, c'est quand même ça. Je ne sais pas, des fois, on peut
travailler. Est-ce qu'il y a eu des exceptions où finalement, quand même, quelque chose a été changé parce que justement, remplacer un instrument par un autre parce qu'un bêta-tester l'aurait pointé du doigt et finalement, tout le monde aurait trouvé que c'était une bonne idée?
Non, la seule chose qui se passe sans que ça aurait changé quelque chose, c'est que régulièrement, les développeurs, ils ont besoin de l'approbation de l'éditeur. C'est-à-dire, le directeur artistique, il va, pour être sûr, montrer à l'éditeur la musique. Et ça, c'est vraiment la seule instance qui peut encore dire quelque chose contre la musique. Parce qu'il faut bien sûr que l'éditeur soit d'accord. Mais honnêtement, je n'ai jamais encore vu qu'un éditeur se mêlait là-dedans. Il a vraiment toujours respecté le choix du développeur.
On sait que dans les jeux vidéo, il y a des différences souvent entre les versions d'un pays à un autre, d'une zone géographique à une autre. Est-ce que c'est le cas aussi pour la musique? Est-ce qu'on peut te demander de faire un type de musique pour un endroit sur la planète et puis un autre type de musique pour un autre endroit?
Non, je n'ai pas encore vu ça, mais ça ne me paraît pas tout à fait impossible parce que de toute façon, si les jeux sont sonorisés, c'est tout à fait possible que d'autres versions pourraient avoir d'autres musiques qui sont peut-être plus au goût de la culture, mais personnellement, je n'ai pas encore eu cette situation-là.
Donc, la musique sort avec le jeu.
Oui.
Les joueurs en profitent. Et souvent, ce qu'on voit aussi en plus des jeux, c'est des disques avec la musique du jeu, comme c'est le cas pour le cinéma. Donc, est-ce que c'est des choses qui se passent aussi avec ta musique?
Oui, c'est-à-dire, ce sont des choses que nous faisons généralement nous-mêmes. C'est-à-dire, on va nous-mêmes produire le disque, le masteriser, le sortir et le vendre aussi nous-mêmes. Et selon le contrat, des fois, les bénéfices sont partagés entre l'éditeur et nous. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour nous parce que ça permet de montrer notre musique, mais qui n'est pas outre mesure lucratif. Pour le moment, on ne va pas vendre, je ne sais pas, 1 million de disques de notre musique.
Donc ça, c'est à négocier au moment du contrat initial avec le développeur?
Oui, il y a par exemple, en travaillant avec Ubisoft, par exemple, c'est généralement, ils travaillent avec des Américains, ils tiennent à avoir tous les droits de la musique, bien qu'il me semble que même là, on peut encore négocier de sortir un disque à part. Je crois que ce n'est pas dans nos contrats, mais... Effectivement, c'est à ce moment-là qu'on va négocier les droits de réutilisation de la musique aussi dans d'autres pays, les droits d'utiliser la musique pour d'autres versions de plateforme. Par exemple, si c'est développé pour PS3, peut-être on pourra retoucher quelque chose si c'est développé aussi pour la Xbox, par exemple.
D'ailleurs, les musiques, on pourrait imaginer qu'elles aillent jusque dans des banques de sons, des grandes bibliothèques, et qu'on puisse utiliser ensuite, justement, pour la télévision.
Oui, effectivement, c'est encore un autre type de contrat, c'est-à-dire, d'un côté, on licencie la musique pour le jeu, et on le produit pour le jeu, mais pour des raisons de budget, le développeur, il ne peut ou ne veut pas payer le prix entier pour avoir tous les droits. Et effectivement, à ce moment-là, nous, on peut licencier la musique pour dans un autre marché pour récupérer le budget de cette manière-là.
Oui, je me demandais aussi s'il y avait des retours des joueurs sur la musique.
Oui, à quelques rares exceptions, oui. C'est vrai que c'est toujours agréable quand les joueurs écrivent qu'ils ont adoré la musique et qu'ils ont fait la recherche pour savoir qui l'a écrit. C'est vrai que c'est très bien parce que finalement, c'est quand même pour le joueur qu'on écrit la musique. Ça, je veux dire, on écrit d'abord pour le développeur, pour l'éditeur, mais au final, c'est quand même le joueur qui doit avoir plaisir. Donc, s'il y a des retours, c'est vrai que c'est très agréable.
Ok, ben on va terminer avec un petit questionnaire rendez-vous création. Donc, ce que tu as appris à l'école et qui te sert le plus?
À l'université de musique, j'ai effectivement appris pas mal de choses qui me servent aujourd'hui, notamment le sens d'analyse et l'approche des œuvres de manière, disons, sans implication personnelle, de m'approcher à une musique objectivement pour l'analyser, connaître les qualités, sans que j'ai même un goût personnel dedans. Et c'est très important dans ce métier-là de pouvoir faire la distance entre le personnel et le professionnel.
Ce que tu as appris avec l'expérience qui te sert le plus aujourd'hui?
Je pense que de rester calme et de jamais avoir peur de ne pas réussir quelque chose, de toujours approcher de manière calme et ouverte une nouvelle situation et de pas attendre de moi-même que je sais faire dès le départ et d'être prêt à apprendre tous les jours quelque chose de nouveau.
Ce qui a le plus changé dans ta façon de travailler?
En fait, ce qui a beaucoup changé, c'est que ça implique un peu ce que je disais à l'instant, c'est que j'essaie d'avoir plus de retour extérieur, j'essaie d'avoir plus de références, de ne pas commencer un projet sans recherche
préliminaire.
Préliminaire, merci. C'est-à-dire de m'entourer de références et d'idées pour m'inspirer plus.
Est-ce que tu as prévu de faire quelque chose différemment à l'avenir?
Je viens de me dire que je devais me mettre plus à jour techniquement, enfin avec le matériel. C'est quelque chose que je fais périodiquement. Pendant un an, j'achète tous les nouveaux logiciels et après, je laisse un peu tranquille. Et là, je me dis qu'il est temps de me remettre à jour parce qu'il y a des nouveaux outils qui sont fantastiques et viennent sortir.
Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant qui voudrait se lancer dans la musique de jeux vidéo?
Je trouve que c'est pas facile parce que ça dépend beaucoup de la personnalité, des failles qu'on puisse avoir. C'est un métier qui est extrêmement polyvalent. Il faut savoir faire énormément de choses. Il suffit pas d'écrire de la belle musique. Il faut savoir la produire. Il faut avoir un bon contact avec les clients, c'est-à-dire vraiment être à l'écoute et savoir se mettre soi-même en arrière en laissant la place à d'autres gens et qui veulent réaliser leur projet et leur aider plutôt que de réaliser son propre projet. Il faut les compétences en informatique, c'est très important aujourd'hui. Il faut savoir mixer, il faut savoir faire un site web, il faut... c'est vraiment très très vaste. Donc, selon là où il y a des failles, il faut travailler beaucoup et arrêter d'avoir une vie personnelle à côté.
Ok. Merci Marcus.
Merci Nicolas.